Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée au Maroc qui accueille ce week-end la 12e édition de la World Policy Conference. Il y a 2 mois, le roi Mohamed VI fêtait ses 20 ans de règne. Des célébrations sans ostentation dans ce pays de 35 millions d'habitants, le plus inégalitaire d'Afrique du Nord, qui bénéficie d'une stabilité que pourraient lui envier ses voisins du continent africain et d'une relativement bonne santé économique. Entre ouverture et crispation conservatrice, le Maroc et son roi ont le don de rassurer la rive nord de la Méditerranée. Qu'en est-il au sein du royaume? Depuis 2011, hormis la Tunisie qui s'essaye à la démocratie, les pays arabes sont divisés entre ceux qui ont sombré dans la guerre civile et ceux marqués par l'immobilisme. Regard avec nos invités par téléphone depuis Madrid, Ignacio Sembrero, journaliste à El Confidencial, qui est le Mediapart espagnol, collaborateur de Orient 21 et spécialiste du Maghreb. Bonjour.
Bonjour depuis Madrid.
Et depuis nos studios à Paris, Pierre Vermeren, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne en histoire du Maghreb contemporain et co-auteur de Dissidents du Maghreb depuis les indépendances aux éditions Belin. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Commençons par ce qui a agité le Maroc ces dernières semaines, la condamnation à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage par le tribunal de Rabat de la journaliste Hajar Ressouni. Condamnation qui a suscité l'indignation dans le royaume et à l'étranger, et soulever des débats sur les libertés individuelles dans le royaume et sur les poursuites judiciaires visant les voix critiques. Que reflète de ce qui se passe au Maroc cette condamnation, Ignacio Sembrero, et cette moralisation des mœurs?
Je ne sais pas si c'est exactement une moralisation des mœurs, parce qu'il y a tous les jours au Maroc des centaines d'avortements, mais il a fallu que la brigade des mœurs, il a fallu que la justice marocaine tombe justement sur le cas de Hajar Ressouni. Et je crois qu'il y a une double explication. C'est un message qui est envoyé à Akhbar Al-Youm, le journal où elle travaillait, qui est sans doute l'un des journaux les plus contestataires, ou ceux qui essayent, disons, de tirer le maximum de profit du peu de liberté d'expression qui existe au Maroc. C'est un journal qui a incommode les autorités d'une part, et d'autre part c'est aussi, je crois, un message envoyé à l'islam politique ou à une part de l'islam politique, parce que Hajar Ressouni est la nièce de Ahmed Ressouni du mouvement pour l'unicité et la réforme, très proche des frères musulmans, et qui est un mouvement qui ne reconnaît pas le roi comme commandeur des croyants. Elle avait d'ailleurs longuement interviewé son oncle dans les colonnes du journal Akhbar Al-Youm, et je pense qu'elle a payé un peu le prix. Donc je crois qu'il faut un peu oublier le côté avortement et relations sexuelles hors mariage et penser davantage que c'est un message pour l'islam politique et adressé au journalisme indépendant.
Alors Pierre Vermeren, un message à l'islam politique, de quoi est-il question ?
Oui, certainement. Vous savez, il y a au Maroc un arsenal législatif extrêmement contraignant et qui est d'ailleurs un héritage du protectorat français qui interdit tout un tas de choses, à commencer par les relations extra-conjugales, et lesquels sont pénalisables. Et en réalité, il y a une grande liberté de mœurs au Maroc, derrière le voile ou derrière le rideau législatif. Mais de temps en temps, par opportunité et notamment politique, effectivement, on ressort ces vieilles règles. Et ça a été le cas déjà de la journaliste Zineb El Razoui, actuellement en France, qui en a fait les frais. Ça a été le cas d'autres journalistes, notamment au moment des printemps arabes ou dès les années 2010. Voilà, donc là, c'est un nouveau cas. Alors, avec un usage très particulier dont Ignacio Sembrero vient de parler.
Un commentaire peut-être, Ignacio Sembrero, pour aller plus loin. Vous évoquiez le message à l'islam politique. Il me semble important de comprendre ce dont il est question.
Oui, plus que message, je devrais employer le terme avertissement. Je pense que ça fait longtemps d'ailleurs que le palais cherche à, disons, écarter ou à briser l'islam politique. Le parti Justice et Développement, qui est théoriquement au gouvernement, auquel appartient le Premier ministre, il y a eu toutes sortes de manœuvres pour essayer de briser ce parti, de le briser électoralement, de le briser politiquement. Et ce parti est étroitement lié à Ahmed Ressouni, qui est l'oncle de cette journaliste qui est aujourd'hui en prison, qui a écopé d'un an de prison. Et je pense que ça fait partie de la même stratégie, c'est-à-dire d'autant plus que, comme je dis, l'oncle, qui est le leader du MUR, du mouvement pour l'unicité et la réforme, qui est un peu la colonne vertébrale de l'islam politique au Maroc, l'oncle, qui habite au Qatar d'ailleurs, qui est protégé par le Qatar, ne reconnaît pas le roi comme le commandeur des croyants. Il l'a mis en question dans plusieurs de ses écrits, et je crois que ça, on ne lui pardonne pas. Et l'oncle parle très souvent dans dans les colonnes du journal Akhbar al-Youm, et notamment, il a été interviewé, comme je disais tout à l'heure, par sa nièce.
Pierre Vermeulen, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui des relations entre le roi du Maroc et le PJD, donc Parti Justice et Développement, qui dirige le gouvernement? Si on devait les qualifier, ces relations tendues, c'est un euphémisme?
Oui et non. C'est-à-dire que ce parti a été créé en quelque sorte pour héberger les islamistes, justement reconnaissant la commanderie des croyants, qui est la pierre d'angle, la pierre fondamentale pour le régime marocain. C'est sur cette base que finalement on est reconnu ou non comme un partenaire politique, et le plus grand parti islamiste au Maroc, en tout cas c'est pas un parti, c'est une association, Al-Adl wal-Ihsan, justice et bienfaisance, justement ne reconnaît pas la commanderie des croyants et du coup n'a le droit ni à la vie politique, ni aux élections, ni à la possibilité d'organiser un parti ou une association en bonne et due forme. Donc le PJD a été, au lendemain des printemps arabes, un peu imposé par les événements à la tête du gouvernement. Il y est resté, disons, dans un rôle relativement secondaire, mais avec un certain charisme. Ce charisme a été écarté lors des dernières élections, une crise gouvernementale qui a duré plus de 6 mois et qui a apporté au gouvernement l'actuel Premier ministre, beaucoup plus effacé que le précédent. Mais c'est vrai que le palais espérait briser le PJD comme il avait brisé l'USFP lors de l'alternance de 1998-2002. Il n'y est pas parvenu. Et donc on voit que sur cette question absolument centrale, un certain nombre de grandes manœuvres, c'est pas des petites manœuvres, c'est des grandes manœuvres sont entreprises par le palais pour essayer de ramener ou d'amener en tout cas à récipiscence cette organisation dont ils ont bien du mal à se débarrasser, puisqu'elle a un ancrage non seulement populaire relatif, mais en tout cas idéologique et religieux, qui constitue une menace potentielle pour le palais.
Alors ces menaces, ces manœuvres plutôt, pardon.
Ces manœuvres, c'est par exemple le fait de choisir le Premier ministre, d'écarter les personnalités qui sont les plus charismatiques, de menacer indirectement, comme à travers cette affaire, un homme d'influence. Voilà, la volonté, c'est de briser les liens, en tout cas, entre la mouvance des frères musulmans en général et ces islamistes qui ne reconnaissent pas ce qui est, encore une fois, la pierre angulaire du pouvoir marocain, la commanderie des croyants, qui elle-même vient du rôle califal du roi et de son ascendance chérifienne. Il faut bien comprendre, vu de France, ça paraît peut-être très exotique, mais c'est vraiment fondamental dans la structuration et la légitimité du pouvoir marocain. Et tout ce qui attente à ça, c'est une sorte de crime de lèse-majesté et de lèse-islam de surcroît.
Alors, Ignacio Zembrero, si l'on devait donner un degré quant à l'ébullition religieuse aujourd'hui au Maroc, de 0 à 10, vous donneriez quel...
C'est compliqué de vous répondre, mais enfin, j'aurais tendance à dire que l'ébullition religieuse n'est pas très élevée aujourd'hui. Je dirais que c'est plutôt du côté de la contestation sociale qu'il faut regarder, notamment dans la périphérie du Maroc, non pas dans ce que Lotley appelait le Maroc utile entre Casablanca et Rabat, mais plutôt dans des régions, disons, éloignées de la capitale. Pour ce qui est du religieux, moi je crois qu'il faut diviser ça en trois grands mouvements. Le PJD, qui est le parti qui théoriquement est au pouvoir, qui est l'islam politique.
Vous dites théoriquement, et c'est la deuxième fois, Ignacio Zembrero, pourquoi ?
Je dis théoriquement parce qu'en fait, c'est le palais qui gouverne, surtout sur des questions importantes. C'est le palais qui fixe les orientations, c'est le palais qui continue à nommer un certain nombre de ministres. Il y a un certain nombre de ministères qui sont absolument directement dirigés par le palais. Donc, je crois que c'est un peu un gouvernement de façade. La classe politique joue un rôle au Maroc, théâtral en quelque sorte, mais derrière, il y a toujours le palais qui impose ses décisions. Après tout, le Maroc, et certaines autorités marocaines le reconnaissent, c'est une monarchie. Exécutive, ce n'est pas du tout une démocratie parlementaire à l'européenne, à l'occidentale. Donc je disais qu'il y a d'un côté le PJD, d'un autre côté il y a ce que Pierre appelait le grand mouvement islamiste justice et bienfaisance, appelé aussi justice et charité, qui n'est pas légal parce qu'il ne reconnaît pas, entre autres, le roi comme le commandeur des croyants, c'est-à-dire le chef spirituel des musulmans marocains. Et puis il y a des groupes plus radicaux comme les salafistes, qui sont assez marginaux aujourd'hui au Maroc. Ça, c'est les trois grandes tendances. Mais je ne vois pas beaucoup d'ébullition. Je ne vois pas. Certes, l'islam politique est très fort et très très représenté dans le pays, mais je ne crois pas qu'il constitue une menace pour le palais.
Pierre Vermeulen, vous partagez ?
Oui, je partage, d'autant plus, si vous voulez, qu'il y a eu quand même une disqualification, notamment du mouvement des frères musulmans dans le monde arabe. On vient de voir qu'en Tunisie, bon, c'est vrai qu'ils sont arrivés en tête apparemment des législatives grâce aux voix des étrangers. Pardon ?
Avec un piètre résultat.
C'est ça. Ils ont fait un score minable à la présidentielle et ils ont été disqualifiés par leur pratique du pouvoir. Mmh. On a eu la même chose en Égypte où, malgré l'extrême violence du gouvernement, on a finalement ce parti frère musulman qui est disqualifié. Bon, et puis la dérive criminelle, bien sûr, de la guerre en Syrie a rajouté. Donc, on a le pays le plus puissant aujourd'hui du monde arabe qui s'appelle les Émirats Arabes Unis, qui est d'ailleurs très lié au Maroc, les deux rois sont très proches, et qui s'est lancé dans une chasse aux frères musulmans, hein, qui ont été criminalisés en Égypte comme aux Émirats Arabes Unis. Donc la tonalité générale dans le monde arabe n'est pas favorable à cette organisation, qui du coup essaye de prospérer davantage en Europe, mais c'est pas le problème du Maroc. Voilà, donc le Maroc n'est pas menacé par ça. Mmh. En revanche, bien sûr, ils entretiennent un climat endémique qui surfe sur les contestations sociales dont a parlé Ignacio. Mmh.
Alors, le 20e anniversaire de l'intronisation de Mohamed VI, je le disais en introduction, c'était le 30 juillet 1999. Mohamed VI montait donc sur le trône après le long règne de son père Hassan II. Son avènement a suscité l'espoir de voir le royaume ouvrir son espace politique et porter davantage d'attention à la justice sociale. Quel bilan provisoire tirez-vous de son règne ? Qu'est-ce qui a changé en 20 ans au Maroc, Ignacio Zembrero ?
Alors, ce qui a changé, c'est que il y avait au départ un grand espoir quand Mohamed VI est arrivé sur le trône. On l'appelait notamment le roi des pauvres. Et puis, il y a eu toutes ces mesures assez spectaculaires qui ont beaucoup frappé l'opinion publique, à commencer par l'opinion publique marocaine, c'est-à-dire le limogeage, par exemple, de son ministre Driss Basri, le retour d'un certain nombre d'opposants importants, comme le cas, c'était le cas notamment d'Abraham Serfati, qui avait passé 17 ans en prison au Maroc avant d'être expulsé vers la France. Et puis, je crois que tous ces espoirs sont un peu tombés en l'eau, en quelque sorte. Je crois que le bilan, de point de vue économique, n'est pas mauvais. Le Maroc a eu une croissance soutenue de l'ordre de 4,5% pendant ces 20 dernières années. Il y a eu un changement, notamment dans les infrastructures. Les infrastructures se sont beaucoup améliorées. La région qui s'est sans doute le plus développée du Maroc ces dernières 20 années, c'est la région de Tanger-Tétouan, celle qui avait été notamment délaissée par le roi Hassan II.
Le Rif.
Mais le Rif un peu moins, mais à côté du Rif, c'est-à-dire plus à l'ouest du Rif. Et je crois que c'est assez spectaculaire, effectivement, le développement de cette région dans ces 20 dernières années. Malgré tout, les inégalités sociales restent très fortes. C'est les plus accentuées d'Afrique du Nord, d'après toutes les enquêtes qui ont été faites sur ce sujet par divers organismes internationaux. Et notamment, la périphérie du Maroc, c'est-à-dire les régions périphériques du pays, se sont beaucoup moins développées ou ne se sont pas du tout développées. Notamment, alors là on revient au Rif, notamment des régions de Rachidia, et c'est pour ça que l'on a souvent des secousses ou des soubresauts sociaux. Et alors, sur le plan plus politique, laissant de côté l'économie, où j'insiste quand même, les infrastructures qui ont été construites ont un peu changé la physionomie du pays, sur le plan politique et sur le plan des libertés, on n'a pas du tout avancé. Il y a eu, certes, une fenêtre d'ouverture lors des premières années de Mohamed VI, mais elle s'est rapidement refermée, et je crois que la situation en ce qui concerne la liberté de presse aujourd'hui est souvent peut-être comparée à celle du temps de Hassan II. Et le pays n'a pas non plus avancé en matière de démocratie parlementaire, malgré la nouvelle constitution de 2011, mais qui est mal appliquée ou qui n'est pas du tout appliquée parce que le palais n'a même pas transféré certains pouvoirs qui étaient prévus au Premier ministre.
Alors, Pierre Vermeulen, tous ces points positifs, négatifs, évoqués à l'instant par Ignacio Zembrero, fait que finalement, aujourd'hui, le Maroc présente les mêmes symptômes que les autres pays en ébullition, on l'a dit, forte inégalité sociale, chômage élevé chez les jeunes, pouvoir absolu d'un seul dirigeant, corruption généralisée, opposition muselée. Et curieusement, vu de l'extérieur, il semble que le monarque ne cristallise pas sur sa personne un sentiment de rejet. Quelle est sa recette ?
Mohamed VI succède à un père extraordinairement autoritaire et présent qui gouvernait par la peur. Et cette peur inspirait à la fois de la crainte et du respect. Et aujourd'hui, on a un roi qui est beaucoup plus absent de la scène publique, qui parle beaucoup moins au peuple, sauf dans des discours très formels et dans une langue qui n'est pas accessible à toute la population. On le voit à la télévision, bien sûr, lors de diverses inaugurations ou manifestations, mais d'une manière générale, il est relativement peu présent, il voyage beaucoup à l'étranger, il disparaît parfois du paysage, et on le retrouve parfois sur les réseaux sociaux, ce qui crée un effet de proximité aussi avec la population, et l'effet de crainte a disparu. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est plutôt un certain nombre de personnages qui sont en retrait mais qui exercent une forte gouvernance, notamment du côté du ministère de l'Intérieur. C'est de ce côté-là qu'il y a des abus. On s'en prend à la corruption, on s'en prend à un certain nombre de personnalités, et régulièrement d'ailleurs le roi surfe sur le mécontentement lié à la corruption. C'est ce qui s'est passé au moment des émeutes du Rif, c'est ce qui s'est passé au moment des printemps arabes, avec un certain nombre de figures qui du jour au lendemain sont sorties du jeu, qui disparaissent et qui sont sanctionnées, que ce soit sur le fond ou en apparence, mais pour leur mauvaise gouvernance, voire pour leur corruption, voire pour leurs abus de pouvoir. Donc, on peut dire que le roi, bien sûr, c'est le responsable éminent et en titre de la situation globale, mais il ne focalise pas sur lui autant de passion. J'ajoute qu'il y a eu des événements tragiques qui se sont déroulés il y a 30 ans en Algérie, qu'il y a eu la guerre en Libye, qu'il y a eu la brutalité aussi de la reprise du pouvoir en Égypte, la dérive des frères musulmans, et puis cette horrible guerre en Syrie. Et tout ça a été mis en scène, a été très présent dans les médias marocains en disant « Regardez, voilà les alternatives qui s'offrent à vous, c'est pas brillant ». Donc peut-être qu'on n'a pas le régime le meilleur du monde, mais il est stable et il vous garantit la paix. Et donc il y a une communication politique très forte qui a été exercée dans ce sens, qui a des effets, qui ne calme pas les revendications sociales très profondes, parce que l'élastique s'est tendu depuis 20 ans. On peut dire que sans répéter une phrase très classique, mais on peut dire que les riches se sont enrichis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une émergence d'un capitalisme marocain qui s'est vraiment renforcé, et à l'inverse, la moitié de la population qui vit toujours en dehors de toute protection sociale, de toute sécurité, l'absence d'emploi, etc. C'est pourquoi il y a des émeutes régulièrement, c'est pourquoi l'émigration a repris. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le Maroc est obligé de s'endetter à nouveau. La dette a à nouveau doublé depuis quelques années. Ce qui fait que l'économie marocaine ne suffit pas à tirer l'ensemble, mais politiquement, la situation semble sous contrôle.
Politiquement, la situation est sous contrôle. Ignacio Zembello, je vais rebondir sur ce que disait à l'instant Pierre Vermorene concernant les voyages à l'étranger du roi Mohamed VI. Il était absent, le monarque marocain, aux obsèques de Jacques Chirac pour cause de maladie, représenté par son fils, le prince héritier Moulay El Hassan. Un commentaire ?
Oui, un commentaire. Il a été absent, mais il a malgré tout été vu. En tout cas, on a même vu des photos du roi dans les rues de Casablanca le lundi et le mardi, donc en même temps que se déroulaient à Paris les funérailles de Jacques Chirac. Le roi est très souvent absent. Il est un peu moins absent cette année et l'année dernière, mais par exemple en 2007, il a été pratiquement la moitié de l'année à l'étranger en vacances. La plupart du temps, d'ailleurs, entre Paris et Betz, où la famille royale marocaine possède un château, mais aussi dans d'autres endroits, comme Hong Kong, à Cuba, en Floride, aux États-Unis ou au Gabon, qui sont ses lieux de villégiature préférés. Non, je crois que cela pose un problème au niveau du chef de l'État. Les absences du chef de l'État, il les a fortement réduites, notamment cette année où il a passé une grande partie de l'été dans son pays, mais ses vacances restent toujours extrêmement longues, même s'il est partout dans les bureaux, il est partout lors de l'ouverture notamment du Parlement, etc. Mais c'est un roi malgré tout relativement absent par rapport à d'autres chefs d'État qui ont l'essentiel du pouvoir. Et je voulais ajouter quelque chose aussi pour ce qui est des capitales européennes et de la perception qu'elles ont du Maroc. Je crois qu'il y a un certain double langage, notamment à Paris, à Madrid ou même à Washington. On ne tarit pas d'éloges vis-à-vis de la monarchie marocaine et en général du Maroc, mais je crois que ce comportement du roi provoque des inquiétudes dans certaines capitales où elles pensent que notamment le roi semble être pressé de passer la main à son fils Moulay Hassan, à qui le roi charge de plus en plus de le représenter, notamment lors des événements à l'étranger, notamment lors des funérailles du président Jacques Chirac.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Ignacio Zembello depuis Madrid par téléphone et Pierre Vermorene après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Maroc. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Madrid. Ignacio Sembrero, journaliste à El Confidencial, qui est le Mediapart espagnol. Et collaborateur à Orient 21, spécialiste du Maghreb. Et en studio à Paris, Pierre Vermeuren, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en histoire du Maghreb contemporain et auteur de Dissidents du Maghreb depuis les indépendances aux éditions Belin, co-auteur avec Khadija Mohsen Finan. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur les absences du roi du Maroc, dont je rappelle qu'il célébrait le 30 juillet dernier les 20 ans au pouvoir. Les questions de santé de Mohamed VI, qui était donc absent aux obsèques de Jacques Chirac pour cause de maladie. La succession de Mohamed VI, son fils, le prince héritier, était présent à Paris. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la succession? Elle est déjà assurée. Voilà, comment est-ce que le roi a déjà organisé son après-règne, Pierre Vermeuren?
C'est pas vraiment nécessaire pour lui de l'organiser, puisque les lois de succession ont été instaurées en 1957, au début de l'indépendance du Maroc, par Mohamed V, donc, qui a instauré quelque chose qui s'apparente à la loi de succession salique, hein, puisque le fils aîné, et en l'occurrence il n'y a qu'un fils, succède à son père. C'est automatique. Et il est instauré aussi un conseil de régence en cas de vacance du pouvoir avant la majorité du prince. Alors il y a un double système de majorité, parce qu'évidemment on peut être roi à tout âge, mais le conseil de régence a la main ou la direction sur les affaires de l'État jusqu'à ce que le jeune souverain ait 18 ans. Or actuellement le prince héritier Moul Hassan a 16 ans. De 18 ans à 21 ans, il y a une sorte de partage du pouvoir, ou en tout cas le jeune roi est placé sous l'assistance de ce fameux conseil de régence, et à partir de 21 ans, il est totalement libre. Alors bien sûr, le roi actuellement est toujours là, et il est là pour un certain temps, mais c'est vrai qu'il est souvent dit malade, et il a laissé entendre qu'il y avait une certaine lassitude vis-à-vis de l'exercice d'un pouvoir qui est quand même extrêmement prenant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il tient ce pays dans ses mains, si l'on peut dire. Voilà, donc la question est présente, mais les règles de succession sont organisé, si je puis dire. C'est pas quelque chose qui est optionnel, hein. C'est quelque chose qui est établi.
Ignacio Sembrero, vous souhaitez rajouter quelque chose, et après ça on va parler de la relation du Maroc avec l'Espagne et la France. Ignacio Sembrero.
Le prince Moulay Hassan est de plus en plus présent, notamment à l'étranger, mais aussi dans son pays. À la fin du mois de juin, le roi a délégué en dernière minute pour qu'il le représente et pour qu'il inaugure l'extension du port de Tangemed. Donc je crois que petit à petit, il est en train de se préparer pour prendre la succession. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre, c'est un sujet délicat, mais il y a aussi un certain nombre de problèmes au sein de la famille, parce que le prince héritier est certainement beaucoup plus proche de sa mère, avec qui il a vécu, que de son père, qui aujourd'hui sont divorcés. Donc je pense qu'une partie de la famille royale peut appréhender que un jeune garçon sous l'influence de sa mère arrive sur le trône.
Alors, on a parlé d'un bilan provisoire du règne de Mohamed VI, qui donc fêtait ses 20 ans de règne le 30 juillet dernier. Les défis de demain, parmi les défis, alors la menace terroriste, mais parlons des migrations. Le Maroc est devenu une source migratoire majeure ces dernières années, avec des départs qui s'organisent le plus souvent depuis la côte méditerranéenne à quelques encablures de la rive sud de l'Espagne. Ignacio Sembrero et Pierre Vermeuren, quelles sont les similitudes ou les différences entre l'Espagne et la France dans leur relation avec le Maroc?
Alors, je dirais Ignacio Sembrero. Deux pays en Europe qui suivent de très près le Maroc, qui s'intéressent au Maroc, c'est la France et l'Espagne, les deux anciennes puissances coloniales. Puis il y a un certain nombre d'autres pays qui sont un peu en second rôle, comme les Pays-Bas ou la Belgique, parce qu'il y a là une forte émigration marocaine. Mais vraiment, ceux qui sont aux premières loges, c'est la France et l'Espagne. Je crois qu'il y a pas mal de similitudes. Ces deux pays qui, au sein des Nations Unies, au sein de l'Union Européenne, travaillent ou roulent pour le Maroc, pour la monarchie marocaine, pour essayer à tout prix de préserver la stabilité marocaine. J'ajouterais que dans le cas de l'Espagne, il y a certaines craintes parmi les autorités, quel que soit le gouvernement socialiste ou le centre-droite, vis-à-vis du Maroc. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le Maroc est indispensable essentiellement pour deux choses, pour la lutte contre le terrorisme et pour endiguer l'immigration irrégulière qui, l'année dernière, a battu des records, puisqu'il y a eu plus de 64 000 immigrés irréguliers qui sont rentrés en Espagne. Ça, c'est ceux qui ont été fichés par la police. À cela, il faut ajouter ceux qui, surtout des Maghrébins, qui arrivent sur les côtes espagnoles et qui arrivent à se faufiler entre les mailles des filets de la police et de la gendarmerie espagnole. C'est un sujet d'inquiétude majeure pour les autorités espagnoles. Aujourd'hui, les choses vont un peu mieux. Les chiffres ont diminué de l'ordre de 40% par rapport à l'année dernière.
Pierre Vermeren pour la France.
Il faut nuancer parce que l'émigration marocaine était infiniment supérieure dans les années 90. Hein. On était sur des chiffres de l'ordre de 200 000 clandestins par an, dont la moitié était reconduite par l'Espagne au Maroc.
Oui, sauf qu'ils n'avaient pas besoin de visa à l'époque, donc c'était plus facile pour eux de venir et de rester.
C'est vrai.
Et puis en 92.
Ça s'est infléchi à partir des attentats de 2001, et ensuite il y a eu une situation souvent compliquée parce que le Maroc est devenu un lieu de passage aussi à un certain moment pour les migrants venus d'Afrique subsaharienne, notamment d'Afrique de l'Ouest, du Mali, etc.
Il en reste,
et les enclaves espagnoles dans le nord du Maroc sont toujours la cible de ces migrants.
Ceuta et Melilla.
Donc c'est un phénomène majeur qui intéresse évidemment en premier la France, notamment avec la nouveauté depuis 3-4 ans des migrants mineurs, et notamment des migrants mineurs d'origine du Maroc, hein, qui sont présents et qui sont clairement identifiés dans les rues des grandes villes de France, à Paris, à Rennes, à Nantes, et qui posent des problèmes aux autorités parce qu'ils sont absolument sans aucune attache. Ils circulent d'ailleurs entre les différentes capitales et grandes villes européennes. C'est vraiment une question sociale très lourde au Maroc. Il faut rappeler que dans les années 90, il y avait 1 million d'enfants des rues au Maroc. Je pense qu'il y en a moins aujourd'hui, mais ce sont des enfants qui sont totalement déscolarisés, désocialisés, qui sont drogués, très jeunes, qui s'adonnent à tout un tas de pratiques de délinquance plus ou moins importantes. Et le Maroc les avait géré cette question sociale, et il l'a en partie externalisé, si je puis dire, depuis les événements du RIF, depuis quelques années, là, depuis 2016-2017. Et donc, quelques dizaines de milliers d'entre eux, apparemment, se sont installés ou ont traversé, sont passés en Europe, et ça pose des problèmes inédits. Ça n'est qu'un aspect mineur, bien sûr, des relations entre la France et le Maroc, puisque l'essentiel des relations entre la France et le Maroc, il y a d'abord un volet économique extrêmement important. Il y a un volet aussi de soutien. La France s'appuie clairement dans le monde arabe sur le Maroc et actuellement sur les Émirats Arabes Unis. Elle a des liens privilégiés avec les monarchies parce qu'elle se dit finalement que les républiques, c'est plus compliqué. La Tunisie mise à part, mais la Tunisie ne représente pas un lieu géostratégique majeur comme le Maroc ou comme l'Algérie. Donc la France continue de miser sur cette monarchie. Pour l'Espagne, bien sûr, il y a une dimension de cousinage, si je puis dire, entre les deux pays qui sont non seulement voisins, mais qui sont deux monarchies. On pourrait penser que la France, la question de la République en France, a écarté l'amitié pour une monarchie, mais pas du tout. Depuis Lyoté, il y a une relation tout à fait particulière, et on peut dire que la France est peut-être la plus monarchique des républiques, et ça convient très bien au Maroc. Mais depuis quelques années, les relations sont plus compliqué, et on se rappelle que au milieu de la décennie, il y a eu une crise très importante entre les deux pays, qui ont même entraîné la coupure de tous les échanges de coopération, y compris dans le domaine du renseignement, et c'était vers 2014-2015. Donc les relations malgré tout sont sous tension, même si le président Macron, bien sûr, n'est pas redevable de cette époque et de ces événements.
Alors, relations sous tension, ce qui n'a pas empêché le Maroc de rejoindre le G4 pour la coopération, pour l'échange d'informations entre le Portugal, l'Espagne, la France et le Maroc. Et on parle là de lutte contre le terrorisme, Ignacio Sembrero.
Oui, alors ces dernières années, 70% des auteurs des attentats en Europe sont marocains ou d'origine marocaine. De là, l'importance de la coopération avec le Maroc. C'est vraiment le pays dont les Européens, notamment l'Espagne, a besoin en matière de lutte antiterroriste. Non seulement à cause des Marocains présents en Espagne, certains d'entre eux qui risquent de se radicaliser, mais également, par exemple, des informations que les services marocains ont fournies à leurs homologues européens sur ce qui se passait en Syrie, où il y avait d'ailleurs bon nombre de Marocains qui sont partis combattre dans les rangs des organisations terroristes, notamment Daesh. De là l'importance de la coopération avec le Maroc. Dans le cas de l'Espagne, elle est surtout fondamentale, elle est importante partout, mais elle est surtout fondamentale en ce qui concerne les deux villes de Ceuta et de Melilla, où un bon nombre d'opérations antiterroristes qui ont été menées par les forces de l'ordre espagnoles l'ont été menées en collaboration et parfois même sur indication des services marocains.
Alors, le Maroc dans son environnement régional, on va parler de l'Algérie, Pierre Vermeren. Le Maroc a-t-il plus à craindre ou à bénéficier de l'évolution de la situation en Algérie et comment vous analysez les liens entre les deux pays aujourd'hui ?
Le Maroc, bien sûr, a tout intérêt à ce que la transition ou les événements d'Algérie actuels, dont la dimension révolutionnaire est soumise à l'appréciation de chacun. Donc le Maroc a tout intérêt à ce que ça se passe bien, à ce que les choses se fassent de manière pacifique. Ce qui est le cas pour l'instant, sauf qu'on est entré à la fois dans le dur, sans tout à fait. Je m'explique. Le dur, c'est que tous les caciques de l'ancien régime, sauf un, ont été à peu près mis dehors, se retrouvent devant la justice, sont traînés devant les tribunaux, sont accusés d'avoir amassé l'argent de la corruption, etc. Et ça, d'une certaine manière, ça sert le Maroc, qui a un discours très rude, évidemment, sur les autorités algériennes depuis très longtemps, puisque les deux pays sont en conflit, en contentieux très lourd, on pourrait même dire en guerre froide, autour de la question du Sahara, et ceci depuis des décennies.
Et la frontière est fermée entre les deux pays.
La frontière est fermée entre les deux pays depuis 1993, donc c'est vraiment une très longue histoire. Donc le Maroc observe cette condamnation finalement des élites algériennes par le peuple algérien, mais en même temps la dimension démocratique telle qu'elle est revendiquée par les autorités algériennes, évidemment, c'est pas sans risque pour le Maroc, puisque ces manifestations géantes et à répétition, l'accusation des dirigeants, les dénonciations de l'autoritarisme, c'est quelque chose bien sûr qui pourrait faire école au Maroc, qu'on a déjà trouvé au moment des printemps arabes, qu'on a déjà retrouvé dans le Rif et dans les villes du nord du Maroc. Il y a une contestation démocratique basée notamment sur la question des droits de l'homme assez vive au Maroc autour de la MDH et d'un certain nombre de mouvements ou de leaders de la société civile. Voilà, donc c'est très sensible, c'est très suivi. En même temps, vous savez, il y a déjà eu la guerre civile dans les années 90 en Algérie, qui a été déjà très très suivie. Donc les deux pays n'échangent pas puisque les frontières sont fermées, mais s'observent énormément. Les télévisions algériennes peuvent être librement regardées au Maroc, notamment dans toutes les régions frontalières. Donc c'est très suivi, non sans angoisse, non sans appréhension, aussi bien de la part d'une partie de la population que de la part du palais. Hein. Donc j'ajoute qu'en arrière-fond, il y a aussi la transition tunisienne qui a été longtemps critiquée ou un peu méprisée par les autorités marocaines, et les élections qui ne sont pas merveilleuses, mais qui en tout cas se déroulent de manière démocratique et pacifique, attirent aussi toute l'attention des Marocains. Donc il y a là, on peut dire que là, si on parle de tectonique des plaques, il se passe des choses très importantes dans le Maghreb oriental. Et bien sûr, cela est très suivi au Maroc.
Sur l'Algérie et la Tunisie, et l'imbrication et la façon dont c'est perçu au Maroc, Ignacio Semrero ?
Je vais un peu répéter ce que vient de dire Pierre, c'est-à-dire je crois que c'est extrêmement suivi ce qui se passe en Algérie, plus sans doute que ce qui se passe encore en Tunisie, parce que c'est vraiment le pays le plus proche, c'est à bien des égards le rival, et les autorités marocaines et une bonne partie des jeunes avec des inquiétudes au Maroc suivent de près ce qui se passe chez leurs voisins algériens, et on le voit même des jeunes marocains et des jeunes algériens échanger sur les réseaux sociaux. Mais je pense que les autorités marocaines souhaitent avant tout que l'on revienne en Algérie à la case départ, c'est-à-dire qu'il y ait un président civil en apparence et que l'Algérie reste dans une large mesure gouverné par les militaires, par Gaïd Salah. Je veux dire, toute expérience démocratique est crainte par les autorités marocaines, puisqu'elle pourrait avoir un effet contagion au Maroc. Donc c'est très suivi, mais finalement on souhaite que le pays, le voisin, n'avance pas sur le chemin de la démocratie.
Alors, vous l'évoquiez à l'instant, Pierre Vermeren, le Sahara occidental. Sur cette question, le Maroc bénéficie du soutien de la France, du soutien aussi des États-Unis, alors que ça s'était plutôt mal passé sous Obama. Avec Trump, la relation est autrement plus facile sur cette question du Sahara occidental entre les États-Unis et le Maroc.
Oui, j'ai pas d'informations particulières, mais de toute manière, vous savez, le monde vu par Trump, c'est pas un monde qui accorde une très grande importance aux puissances mineures et aux questions secondaires. C'est l'ONU qui se débrouille, si je puis m'exprimer ainsi, de cette crise, de cette patate chaude. Il n'y a pas de solution, et la solution ne viendra que d'un accord un jour venu entre le Maroc et l'Algérie. Clairement, Mohamed VI avait de grands espoirs au début de son règne qui ont été rapidement échaudée par les résistances de Bouteflika et l'appareil d'État algérien. Actuellement, la question du pouvoir algérien est posée, donc on attend la suite. Et donc, finalement, vu de l'extérieur, que faire ? On observe que le Maroc tient bon. C'est vrai que depuis 20 ans, il s'en est passé. Il y a eu les printemps arabes, il y a eu la séquence terroriste dans les années 2000. Il y a eu des secousses politiques incroyables, notamment avec les événements du RIF. Et donc, vu de Washington, ce pays tient bon. Il est allié avec les grands amis de l'Amérique qui se trouvent dans le Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Le Maroc est très proche de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Donc, tout va bien. Après, le Maroc n'a pas de pétrole, il n'a pas de frontière directe avec les États qui sont en guerre au Sahel, donc il n'y a pas vraiment, à mon avis, d'inquiétude américaine. Il y a le maintien de relations amicales ou correctes, ça dépend, mais ça n'est pas au cœur de leurs préoccupations, me semble-t-il.
Ignacio Zambrero.
Oui, non, je partage tout à fait l'avis de Pierre. Pour les États-Unis, ni pour personne d'ailleurs, le Sahara occidental n'est pas un sujet prioritaire. Je dirais simplement, la France et l'Espagne ont bien travaillé au sein de l'Union européenne pour que le Maroc, dont les accords avec l'Union européenne ont été, notamment en matière agricole et en matière de pêche, ont été invalidés par la Cour de justice européenne pour reformuler ces accords et pour qu'ils soient approuvés par le Parlement européen, même si les avocats du Polisario continuent toujours à essayer de porter plainte auprès de la Cour européenne de justice à Luxembourg. Non, je crois que de ce point de vue-là, le Maroc n'a pas à s'inquiéter. Personne dans le monde occidental ne va remettre en question son contrôle sur cette ancienne colonie espagnole, tout en ne reconnaissant pas la souveraineté du Maroc sur ce territoire.
Alors, on l'a compris, si on devait résumer, le Maroc, un partenaire régional majeur, un royaume qui rassure l'Europe. Quels sont, d'après vous, Pierre Vermorin, Ignacio Zambrero, les priorités pour le Maroc pour les années à venir?
Le problème, si vous voulez, c'est que l'économie marocaine, elle est toujours sur la corde raide. Parce que c'est un pays qui est très ouvert, c'est une économie très ouverte, un taux d'ouverture, comme disent les économistes, de près des 2/3. Et c'est pas dû à une rente comme le pétrole, par exemple, en Algérie ou en Arabie Saoudite. Le Maroc doit chaque année maintenir des relations avec de très nombreux pays et dans de très nombreux domaines. Et finalement, alors on peut dire le tourisme, l'argent de l'immigration, l'argent de l'exportation du phosphate, des produits de la pêche, des produits de l'agriculture, des produits industriels... la contrebande, l'exportation même des produits illicites comme le hashish. Il y a un nombre considérable de postes. Or, le Maroc est en déficit commercial structurel. Il a besoin de capitaux chaque année. Il est endetté, puisque sa dette a doublé. Et or, il faut maintenir un taux de croissance. C'est un peu la même problématique, toute proportion gardée, que l'économie chinoise. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir une décroissance tout d'un coup, parce que sinon, la situation sociale et donc politique deviendrait très difficile. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, s'il y a la crise financière qui s'annonce dans le monde, si l'Arabie Saoudite était fragilisée par sa guerre au Yémen et qu'elle finisse par se préoccuper d'elle-même et d'arrêter d'exporter des capitaux, le Maroc aurait des soucis. Alors, ajoutons la situation algérienne qui pourrait aussi décompenser. Ce n'est pas le cas. Mais donc finalement, la situation au Maroc, elle tient, mais elle tient en solidarité avec des parties du monde sur lesquelles, bien sûr, le Maroc n'a strictement aucune prise. Et c'est plutôt là qu'il y a éventuellement des soucis à se faire.
Une situation qui tient, mais qui n'est pas sans fragilité, pour conclure, Ignacio Zambrero.
Oui, le Maroc, moi je crois que son principal problème aujourd'hui, c'est les inégalités sociales, non seulement au sein de la population urbaine, mais surtout entre régions, et les explosions qui se produisent pour une raison ou pour une autre dans des régions éloignées de Rabat, notamment le RIF, ce qui a amené quand même à avoir des centaines de prisonniers politiques, et ça montre un peu les problèmes dans une bonne partie du Maroc. Je crois que la première tâche serait de réduire ces inégalités sociales, qu'aujourd'hui on essaye de résoudre en partie en permettant aux jeunes Marocains d'émigrer de façon irrégulière vers l'Europe, notamment vers l'Espagne, mais aussi à travers des réseaux plus compliqués, à travers l'Italie ou à travers la Turquie aussi.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Ignacio Zambrero, je rappelle que vous étiez au téléphone avec nous depuis Madrid et que vous êtes journaliste à El Confidencial, qui est le Mediapart espagnol, collaborateur d'Orient 21, spécialiste du Maghreb, et Pierre Vermeren, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne en histoire du Maghreb contemporain et co-auteur avec Khadija Mohsen-Finan de Dissidents du Maghreb depuis les indépendances aux éditions Belin. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi.